Chapitre 174. De violentes rafales venant du nord-ouest avaient succédé à la pluie lorsque Jane arriva à Pacifica, faisant voler les aiguilles et les pommes de pin, les fleurs rouges des flamboyants et les feuilles bleutées des eucalyptus. Un large plastique de chantier à moitié déchiré, tel une muleta, affrontait un taureau invisible sous les assauts du vent. Jane se gara dans la rue voisine de celle où se trouvait son explorer sport, rejoignit celui-ci et appela police secours sur un téléphone jetable afin de signaler que Waldlock était retenu prisonnier dans les toilettes attenant à sa chambre. Le flanc brûlé comme un fer rouge par sa blessure, elle prit la direction du pont du Golden Gate avec l'intention de rallier, à 110 km de là, la ville de Santa Rosa où vivait le docteur Porter Walkins, le médecin qui avait récemment sauvé la vie de son compagnon de lutte Dougal Traherne. Elle-même mordue par un coyote, Jane avait été traitée contre la rage par Walkins. Convaincue de l'innocence de sa patiente depuis ce qui s'était passé dans le ranch des Chenecs, le médecin accepterait de soigner sa blessure par balle sans en informer les autorités ainsi que l'exigeait la loi. Un épais brouillard venu de l'océan enveloppait le pont du Golden Gate lorsqu'elle le franchit. Les voitures roulaient à une allure de tortue au milieu de la masse de câbles rouges, leurs phares flous dessinant des tunnels dans la brume. Les mains posées sur son volant, le Pacifique invisible sur sa gauche, la baie et la ville noyées dans un cocon de nuages sur sa droite, Jane tenta de comprendre ce qui s'était passé ce matin-là, au 8e étage de l'immeuble Far Horizons. Même s'il avait été inculpé par une armée de procureurs possédant les preuves irréfutables des crimes contre l'humanité dont il était coupable, DJ Michael se serait contenté de convoquer une batterie d'avocats et de mettre 10 millions de dollars à leur disposition. Narcissique et arrogant comme il l'était, jamais il n'aurait accepté de reconnaître la moindre erreur, ou même de concéder sa défaite. Surtout, jamais il n'aurait cédé au désespoir au point de se donner la mort. « Vous n'entendez pas le murmure du destin, Jane ?» Lorsqu'il avait prononcé cette phrase avant d'évoquer la chambre des murmures en portant la main à son oreille, était-ce une façon de dire qu'il entendait des voix dans un recoin de son cerveau? Ou bien signalait-il l'arrivée imminente du jour où une armée humaine, placée au service d'une élite, obéirait aux instructions de contrôleurs invisibles? Quelle que soit la nature du message de Michael, il était clair qu'une faction à l'intérieur des Arcadiens avait réussi à lui injecter à son insu un mécanisme de contrôle. Lors des révolutions passées, aucun monarque n'avait été jeté à bas de son trône d'une manière aussi sinistre. Les dieux en devenir de ce nouveau panthéon s'étaient retranchés au sommet d'un Olympe moderne, où ils conspiraient les uns contre les autres, avec une médiocrité comparable à celle des gangs de rue attachés à la domination d'un quartier délabré ou d'une cité HLM. Le brouillard finit par se dissiper au nord de la baie de San Pablo et Jane quitta la pluie, mais le ciel restait bas et chargé, transformant à ses yeux les villes qu'elle traversait en un monde glauque, hanté par le destin qui murmurait à l'oreille de David James Michael. Jane avait conscience qu'elle devait son humeur sombre aux épreuves traversées depuis la mort de Nick, 5 mois plus tôt. Mais la phrase du milliardaire qui tournait en boucle dans sa tête la perturbait plus que tout. « Vous n'entendez pas tous ces murmures qui s'échappent de la chambre secrète, Jane ? Rassurez-vous, ce sera bientôt le cas. » Le milliardaire était convaincu que le jour était proche où Jane ferait partie des légions de convertis, à l'image des habitants de Haut-Fourneau-le-Lac. Elle songea à la nuit précédente, lorsqu'elle avait dormi dans une chambre d'amis chez Henry Waldlock, à l'insu de ce dernier. Elle avait pris soin de se barricader à l'intérieur de la pièce avant de s'accorder quelques heures de sommeil, et la chaise avec laquelle elle avait bloqué la poignée n'avait pas bougé à son réveil. Personne n'avait pu la surprendre pendant qu'elle dormait, même si elle avait eu le tort de ne pas s'assurer que la fenêtre était bien fermée. Il était ridicule de penser qu'un mont en l'air ait pu pénétrer dans la pièce en escaladant la façade. De toute façon, elle avait dormi parce qu'elle était recrue de fatigue, et non parce qu'on lui avait administré un sédatif. C'est vrai, elle avait dîné dans un restaurant de Pacifica avant de se rendre chez Waldlock, mais personne ne pouvait deviner qu'elle mangerait là. En pareil cas, La paranoïa était compréhensible, mais dangereuse. Si on lui avait inoculé un implant cérébral, jamais elle ne s'en serait pris à DJ Michael. Le mécanisme de contrôle l'en aurait empêché. À moins qu'on ne lui ait injecté un implant d'un type nouveau, nécessitant plusieurs heures avant de se reconstituer dans le cerveau. À Santa Rosa, elle se gara dans un quartier résidentiel à une rue de sa destination. La chaussée était tapissée de feuilles mortes humides apportées par le vent, et les silhouettes décharnées des arbres dégoulinaient de pluie. Le docteur Walkins faisait figure de cas à part dans sa profession, puisque son cabinet se trouvait chez lui. Jane, qui connaissait ses habitudes, savait qu'il prenait une heure tous les midis pour déjeuner dans la partie privative de sa maison. Elle passa une vingtaine de minutes sans bouger derrière son volant, puis elle se rendit à l'adresse qu'il lui avait communiquée le jour où il lui avait fait une piqûre contre la rage. La douleur qu'elle ressentait du côté gauche, anesthésiée pendant le trajet depuis San Francisco, se réveilla lorsqu'elle se mit à marcher. Les quelques dizaines de mètres qui la séparaient de sa destination lui parurent interminables. Débraillée, échevelée depuis que le chimpanzé lui avait volé sa perruque, elle fut soulagée d'atteindre la porte du médecin sans avoir croisé âme qui vive. Elle fit le tour de la maison de style victorien, grimpa les marches de la véranda et aperçut le médecin par la fenêtre de la cuisine, occupé à se préparer un sandwich. Rassurée, elle frappa à la porte. Il était 12h35.